Hello and a warm welcome to Tech Advantage, a podcast by the Luxembourg Institute of Science and Technology. List and ArcelorMittal have been partners for quite some time now. In 2019, the two companies signed an agreement to improve energy efficiency and responsible use of resources. One of the objectives was to optimize energy efficiency measures, as well as heat recovery and electricity generation from excess heat. Out of this particular collaboration was born a project and then a tool called Heat to Power. I'm very happy to welcome today Pascal Moisy to our podcast to talk about this project, but also about the ongoing partnership with List. Pascal is the head of communications and the corporate social responsibility manager at ArcelorMittal Luxembourg. This podcast will be in French. Bienvenue au Tech Advantage, Pascal. Merci beaucoup d'être là.
Bonjour, Paramita.
Alors, je me suis dit, on va commencer, comme il fait très très froid dehors, hein, il neige depuis tout à l'heure, je me suis dit peut-être on va parler du processus de la récupération de la chaleur en soi. Quelle est la signification en fait de la récupération de la chaleur, surtout dans les industries telles que ArcelorMittal?
En fait, récupérer la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur résiduelle, dans un processus de production d'acier, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça permettrait de produire de l'énergie avec une chaleur qui est par définition omniprésente et abondante. Il y en a partout, hein, dans une usine sidérurgique. Donc elle est disponible et de toute façon, elle est perdue puisqu'elle s'échappe, entre guillemets, du processus. Donc ça permet de récupérer quelque chose qui est abondant. Et ensuite, comme c'est une chaleur qui permettrait de créer une énergie à partir de cette chaleur abondante, en fait, c'est de l'énergie qui n'est pas l'énergie fossile. Donc, ça permet effectivement d'avoir une production un peu plus décarbonée d'acier.
C'est quoi cette chaleur résiduelle?
Tout au long du processus de production de l'acier, on a deux choses. On a d'abord besoin de refroidir les installations, notamment parce que, par exemple, au laminage, Quand les barres de laminage entrent dans les cages de laminage, les cylindres qui tournent et qui écrasent les sections d'acier ont besoin d'être refroidis, sinon elles cassent. Donc on a besoin de refroidir ces cylindres, et donc cette eau qui est au contact de pièces très très chaudes ressort de façon très chaude. Et cette eau, on doit la refroidir tout simplement pour pouvoir la réutiliser puisqu'on est en cycle fermé. Mais à un moment donné, donc, cette eau est très chaude. Donc on pourrait tout à fait la récupérer pour pouvoir avoir, au travers d'un échangeur, récupérer de l'eau chaude et donc avoir de la chaleur. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est en fait nos installations à plusieurs endroits émettent de la chaleur. Au four électrique, évidemment, c'est très très chaud. Hein. Le point de fusion de la ferraille, pour pouvoir faire de l'acier liquide, c'est entre 1520 et 1540 degrés Celsius. Quand on arrive au début du laminage, on a des sections qui sont à 1200 degrés, qui terminent à 800 degrés. Et quand elles arrivent tout au bout de ce processus, en fin de laminage, elles sont sur ce qu'on appelle un refroidissoir, comme ce qu'on en a dit, qu'on les met là en attendant qu'elles refroidissent, qu'elles baissent en température, qu'on puisse les assembler, les expédier. Donc de la chaleur perdue, il y en a partout, en fait, dans une usine sidérurgique. On se dit que ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de la récupérer à un moment donné.
Et réutiliser cette chaleur pour autre chose, en fait.
La réutiliser pour produire de l'énergie, tout simplement. C'est un peu la base, en fait, du projet qui a été mis en place avec le LIS, c'était de se dire, voilà, on a de la chaleur. D'un côté, on a de la chaleur qui est disponible. De l'autre côté, on a des besoins en énergie, si possible, de l'énergie non fossile. Donc, effectivement, on peut faire le pont entre les deux.
Ce partenariat, ça s'appelle The Forge.
Alors oui, on a donc signé donc, un partenariat, comme tu le disais au début, on a démarré en 2019, et on a créé ce qu'on appelait La Forge. L'idée au départ, c'était de se dire, on va mettre sur la table toutes les idées qui nous viennent à l'esprit, et puis on va voir si elles présentent un intérêt ou pas. Donc on va les explorer, on s'auto-censure pas, on n'a pas d'a priori, on les met sur la table, si ça a un intérêt, on les étudie, on va jusqu'au bout et on voit ce qui leur sort. Et l'idée, c'était que on n'était pas sûr à chaque fois que ça allait déboucher sur quelque chose de concret, mais on se donnait le droit de l'étudier quand même. Donc c'est une approche un peu, on va dire, originale, puisqu'on n'avait pas une obligation de résultat. Et ça explique d'ailleurs pourquoi cette forge, en fait, est financée non pas par une usine ou la recherche et développement d'ArcelorMittal, mais par la partie corporate responsibility, parce qu'on sait qu'une usine ou un centre de R&D a besoin d'un retour sur investissement clair pour pouvoir engager des fonds. Là, on s'est dit, on va défricher des sujets vers lesquels on n'irait pas naturellement parce qu'on n'est pas certain que ça débouche sur quelque chose de concret et on n'est pas certain qu'on gagne de l'argent avec. Mais on va quand même regarder ce que l'on peut faire. C'était ça, en fait, qui était à la base de l'idée de la Forge.
On n'entend pas des projets comme ça beaucoup, hein, où il n'y a vraiment pas un objectif de ROI derrière, mais quand même, on y va quand même parce qu'on avait on a cette idée de faire quelque chose avec, comme tu disais, la chaleur résiduelle. Et donc, vous avez...
Alors, on a des fils rouges quand même, évidemment. Hein. On avait effectivement en tête toute la problématique de la décarbonation. Exactement. Donc, on s'est dit effectivement en quoi nos activités par elles-mêmes peuvent permettre de faire de la production d'acier décarboné sans aller chercher quelque chose de très compliqué. Mais donc voilà, une des idées, c'était de récupérer cette chaleur. Mais je dirais que ça, c'était un des aspects qu'on a étudié. Mais en fait, à partir du moment où on a commencé à discuter entre nous, entre ArcelorMittal et Ulysse, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres sujets qui pouvaient être intéressants. On s'est rendu compte, par exemple, que Ulysse, il y avait une vraie compétence et une vraie expertise dans l'étude des actifs forestiers. Il se trouve qu'ArcelorMittal possède plusieurs centaines d'hectares de forêts au Luxembourg. Et on s'est dit, tiens, là, il y a peut-être un sujet qu'on peut travailler ensemble. De la même manière, on a aussi exploré tout un dossier sur la récupération des plastiques et des polystyrènes dans nos usines. Il se trouve qu'ArcelorMittal a signé la charte du Zero Plastic Use, donc de supprimer tous les plastiques à usage unique, hein, de ces processus. Et en fait, on se rend compte que souvent, dans les bureaux, ce n'est pas très compliqué. Hein, il suffit d'enlever les gobelets en plastique dans les machines à café. Ça, c'est facile, mais c'est des tout petits volumes. Nous, quand on reçoit, entre guillemets, nos matières premières, notamment, par exemple, toutes les électrodes qui arrivent pour faire marcher les fours électriques ou les fours poches, en fait, c'est la graphite qui est protégée dans des emballages en polystyrène. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait après de ce polystyrène? Est-ce qu'il y a une vraie filière de valorisation, de récupération de polystyrène? Est-ce qu'elle est rentable? Le polystyrène, c'est très léger. Donc, un coût de transport, un camion, on le remplit très vite avec du polystyrène, mais le prix au kilo ou à la tonne, il n'est pas terrible. Donc, on s'est posé toutes ces questions-là et effectivement, voilà, on a défriché des terrains de ce genre-là grâce à ce partenariat et qu'on n'aurait probablement jamais exploré si on n'avait pas eu ce cadre de la Forge pour nous faire avancer.
Très bien. Alors, donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Heat to Power, ça, c'était un projet qui est vraiment né de ce partenariat. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de ce projet, pourquoi déjà ça a été créé, comment ça a été créé, un peu le contexte?
Alors en fait, comme je disais, donc dans nos installations, la chaleur, elle est partout. Donc on s'est dit, cette chaleur, en fait, c'est une chaleur qui est perdue. Essayons de la récupérer. Ça, c'était l'idée au départ. Donc avec tout ce système de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut récupérer l'eau qui refroidit nos installations et qui reste chaude et qui, quelque part, peut, à travers un échangeur, générer de l'énergie. Et donc, en fait, toute la réflexion, elle a été basée sur ce principe-là, c'est on a de l'énergie qui s'envole et l'énergie pour nous, elle est super importante parce que cette énergie, cette chaleur, elle peut recréer de l'énergie. Alors évidemment, on ne peut pas recréer la même quantité d'énergie, mais ça nous permet quand même d'en récupérer une partie. Donc l'idée, en fait, c'est ce qui a donné le nom au projet, c'est de passer de la chaleur à l'énergie, donc le heat to power, c'était exactement ça l'idée, c'était de partir de cette manne qui est très importante dans nos installations et de la traduire, de la convertir dans une nouvelle énergie qui est une énergie par définition propre et qui va nous permettre justement à la fois de valoriser cette énergie perdue et de décarboner nos installations en ayant une énergie qui soit propre.
Pour ce projet particulièrement, pourquoi vous avez pensé aux listes?
On avait quelques idées en tête, mais par contre, on n'avait pas forcément la compétence, la ressource disponible pour pouvoir les mener à bien. Et donc, on s'est dit, on sait qu'au liste, il y a des compétences, une expertise assez pointue qui va peut-être nous permettre d'avancer sur ces sujets qui sont en plus pas des sujets directement productifs. Donc, effectivement, pouvoir consacrer des ressources en interne à quelque chose qui ne permet pas de produire de l'acier immédiatement n'était peut-être pas forcément facile à mettre en place. Donc on a décidé de travailler avec le LIST, en connaissant donc cette expertise, Et puis, on savait aussi que le LIST dispose d'un réseau élargi, on va dire, de contacts, non seulement dans l'industrie, mais aussi ailleurs, qui pourraient être inspirants, en fait, dans les projets qu'on avait. Donc, on est parti sur cette logique-là, en se disant, avec le LIST, on va avoir un partenaire qui va nous permettre de mélanger de la recherche, de la technologie, une connaissance de l'état de l'art, et arriver à des solutions pratiques en fin de projet.
Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'idées comment ça marche, l'outil? C'est quoi le fonctionnement exactement pour notre audience qui est, enfin, peut-être pas, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails techniques, mais quand même un petit peu pour savoir en fait comment ça marche, comment on récupère cette chaleur.
En fait, Heat2Power, c'est un logiciel qui est basé sur un modèle mathématique et qui va identifier en fonction de l'environnement, c'est-à-dire le lieu où on se trouve dans une usine, comment est-ce qu'on peut récupérer la chaleur, quelle est la meilleure solution pour la récupérer et éventuellement quelle est la meilleure combinaison de différentes technologies pour pouvoir récupérer cette chaleur. Donc effectivement, il y a plusieurs types de solutions. Il y a la machine thermodynamique à cycle organique de Rankine, par exemple, que je ne connaissais pas avant d'être plongé dans H2P. Il y a les turbines à vapeur, hein, ça, c'est un petit peu plus simple. Et donc, en fait, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait arriver à combiner ces technologies pour produire de l'énergie. Et en fait, le modèle mathématique permet de le faire. Et finalement, H2P, ce n'est pas l'invention d'un nouveau système de récupération de chaleur. C'est un logiciel qui permet de choisir et d'optimiser une solution. Et pour arriver à construire ce logiciel, on a eu le soutien du Fonds national de la recherche. Parce qu'effectivement, il y a un réel intérêt pour ArcelorMittal, mais aussi pour d'autres types d'industries, d'utiliser ce genre de ressources.
J'ai une question. C'est quoi les challenges, en fait? C'est quoi les barrières pour la récupération de la chaleur? Enfin, est-ce que dans l'équipe, vous avez rencontré ces mêmes challenges dans Heat2Power? Sinon, enfin, est-ce que c'était différent?
Quand on veut réutiliser de la chaleur résiduelle, en fait, on est limité par différentes contraintes techniques. D'abord, c'est est-ce que c'est faisable de récupérer cette chaleur à un endroit X ou Y dans l'installation? Il y a des contraintes organisationnelles, c'est-à-dire par exemple la disponibilité de sources froides à côté. Ça aussi, c'est un besoin qu'on a dans le processus. Mais il y a aussi surtout des contraintes économiques, parce qu'il y a un coût d'investissement qui est important, il y a un délai d'amortissement qui peut être aussi élevé, parce qu'effectivement, récupérer, produire de l'énergie, vu que l'énergie a un coût qui varie, effectivement, parfois on peut se dire, est-ce que l'investissement est pertinent? Mais effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même eu une évolution à la hausse des prix de l'énergie, et donc aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant, effectivement, d'aller vers ce type de solution, mais on a vu vraiment une différence justement en termes d'intérêt entre le début du projet, donc avant, on va dire, les périodes de tension sur les marchés qui ont été liées d'une part à la partie à l'épidémie de Covid et ensuite au conflit en Ukraine, où là effectivement tout d'un coup la raréfaction de certaines sources d'énergie ont fait que l'énergie a exagérément augmenté en termes de prix. Donc on s'est rendu compte que finalement réfléchir sur ces sujets-là de récupération de chaleur pour produire de l'énergie, ça faisait du sens, notamment quand on est dans des périodes où les prix sont tendus sur l'énergie.
Et quand tu dis que tu as vu de l'intérêt augmenter, tu as vu d'où en fait, ArcelorMittal dans le groupe ou dans d'autres secteurs?
C'est au sein de notre équipe, on s'est dit, mais finalement c'était une bonne idée de partir sur cette piste-là, puisqu'effectivement, au départ du projet, c'était, on va dire, une piste qui était suivie en n'ayant pas forcément une recherche de rentabilité rapide, etc. Mais effectivement, quand on a vu les prix augmenter, hein, les prix du gaz et de l'électricité, puisque le prix de l'électricité est calqué sur le prix du gaz, qui a complètement explosé, effectivement, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel intérêt à devenir, entre guillemets, aussi producteur d'énergie, ou en tout cas de récupérer notre chaleur pour produire de l'énergie, dans le cadre, effectivement, d'un marché qui était tendu sur le plan énergétique.
On sait que le projet a abouti fin août, début septembre 2023. Est-ce que chez ArcelorMittal, vous avez déjà commencé à utiliser l'outil?
Alors, le logiciel, effectivement, il est opérationnel, il fonctionne. Il a été, entre guillemets, testé et il a présenté effectivement les résultats que l'on souhaitait. Alors, on n'est pas encore déjà en cours d'utilisation de ce logiciel. On est en train, en fait, justement, d'essayer de construire un projet pour vraiment l'utiliser. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on va partir, en fait, de toutes les données qu'on a collectées pour nourrir le logiciel et voir comment, après, on peut le déployer chez nous, ici au Luxembourg. Mais à terme, effectivement, ça peut être aussi utilisé dans d'autres sites d'un seul état dans le monde. Grâce à ce logiciel, les équipes du LIST ont fait un calcul, en fait, au terme de ce calcul, en fait, avec l'utilisation de ce logiciel et donc cette récupération de chaleur, on pourrait générer 150 gigawattheures d'électricité par an, ce qui correspond en gros à 15 500 tonnes de CO2 économisées par an. Et si on passe au niveau européen, au niveau de l'Europe des 27, là, on est sur une production de 13 000 gigawattheures par an, nettement plus conséquent, et de plus de 4 400 tonnes de CO2 économisées par an. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un potentiel réel et très important si on est capable d'utiliser ce logiciel sur des installations à travers l'Europe.
Tu as déjà répondu à ma question un petit peu, parce que ma question était est-ce que vous voyez dans le groupe un vrai potentiel concret en fait de ce système, pas seulement de l'outil en tant que tel, heat to power, oui, mais de ce système de convertir la chaleur en électricité. Et donc, tu viens de répondre, en fait.
C'est tout à fait... l'objectif, c'est de déployer. Hein.
Oui,
on aimerait pouvoir le mettre en place. Donc, au Luxembourg, mais pas seulement au Luxembourg. Si on arrive à le déployer, on va dire, dans un certain nombre de sites comparables chez ArcelorMittal, parce qu'on est, entre guillemets, sur des installations qui se ressemblent, et on se dit, tiens, voilà, à cet endroit-là, on peut collecter des données équivalentes et donc faire tourner le logiciel de la même manière. Il n'y a pas de raison qu'on va pas s'en priver, évidemment. Si on est capable, derrière, de générer de l'énergie grâce à toute la chaleur qui s'évapore, entre guillemets, dans nos installations, il y a un vrai avantage, effectivement.
Et pas que dans la
sidérurgie.
Excusez-moi, oui, voilà, c'est ça. Pas que dans la sidérurgie, mais aussi dans d'autres industries.
En fait, potentiellement, toutes les industries qui sont confrontées, on va dire, à des pertes de chaleur résiduelles, on pourrait appliquer le logiciel. Effectivement, H2P pourrait fonctionner dans n'importe quelle installation dans laquelle on constate qu'il y a des déperditions de chaleur. Après, c'est voilà, le logiciel, il est fait pour ça. Hein. Il est fait pour évaluer est-ce que c'est intéressant ou pas. Typiquement, on va avoir par exemple des endroits où il y a énormément de chaleur qui est perdue, mais où elle est très difficile à capter. Si on est par exemple à un endroit où on a 1000 degrés en permanence qui s'échappe, mais c'est compliqué d'aller les récupérer, peut-être que ce n'est pas faisable et qu'il vaut mieux aller récupérer de la chaleur à un endroit où elle est à peu près à 200 degrés, mais où c'est beaucoup plus facile d'accès et donc est beaucoup plus facile d'avoir des installations qui vont tourner grâce à ces 200 degrés. Donc, cet outil doit nous permettre justement de déterminer quel est le bon équilibre que l'on doit trouver entre accessibilité, quantité de chaleur et donc production d'énergie qui en résulte.
Parlons du projet maintenant, en fait, Heat to Power. On est où maintenant que l'outil il est sorti, enfin, il va être déployé? Quelles sont des attentes?
Aujourd'hui, on est en train de penser à une version, on va dire... une phase 2, entre guillemets, du projet, c'est-à-dire qu'on avait le Heat to Power, et là, on est en train de passer vers ce qu'on appelle le Heat for Steel, c'est-à-dire, effectivement, de récupérer aussi de la chaleur, mais à d'autres endroits, voire à valoriser, on va dire, certaines émanations de chaleur, plus simplement au travers de la captation des eaux de refroidissement, mais en allant la chercher là où il y a de la chaleur, entre guillemets, qui est perdue. Donc ça va être par exemple au niveau des scories, quand on produit de l'acier, on a, on va dire, des sortes de déchets qui sont produits naturellement, parce que c'est une réaction chimique, et qui sont très chauds. On est en train de se demander est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer la chaleur à cet endroit-là pour pouvoir justement produire de l'énergie. Donc on est en train de réfléchir, on va dire, à une autre étape dans le projet, qu'on a rebaptisé autrement, justement, pour bien montrer que c'est une autre étape, et pouvoir toujours produire de l'énergie. L'autre étape dans Heat for Steel, c'est aussi de viser à étudier la décarbonation de la production d'acier, notamment par la filière four électrique et DRI. Là, donc la DRI, c'est la réduction du minerai de fer via de l'hydrogène et qui permettrait en fait donc de produire évidemment de l'acier qui soit décarboné, mais aussi de valoriser la chaleur qui émane de ces nouveaux types de processus. Et notamment ce qu'on appelle la chaleur des flux solides, qui sont notamment toute la partie préchauffage des ferrailles, préchauffage des semi-produits avant laminage, etc. Toutes ces étapes entre guillemets du processus où on pourrait récupérer de la chaleur pour produire aussi de l'énergie. Donc après H2P, on passe à Heat for Steel. Et là, effectivement, on est en train d'étudier tout ce que l'on pourrait avoir comme avantage en récupérant de la chaleur sur des nouveaux processus de production qui vont être mis en place pour produire de l'acier décarboné.
Ma dernière question, c'est un peu lié à ça, en fait, parce que je voulais te demander, du coup, comment vous voyez le partenariat avec le LIST à l'avenir? Est-ce que vous avez d'autres projets à l'horizon?
Alors, donc avec Heat for Steel, on a ce projet donc de développement entre guillemets de ces technologies pour produire de l'énergie à partir de chaleur résiduelle. Et en fait, pour ça, on a aussi soumis un projet au Fonds national de la recherche. On devrait avoir la réponse, on va dire, d'ici la fin de l'année. Donc, si le projet est accepté, on aura effectivement en 2024. On va dire un beau projet à lancer dans ce partenariat entre ArcelorMittal et le LIST. Il y a un point aussi important, hein, c'est que tout au long de ce partenariat, moi je voudrais souligner la qualité des échanges qu'on a pu avoir. Il y a eu une qualité à la fois, une grande expertise, une très bonne collaboration, et ça s'est toujours fait dans un esprit de convivialité qui était vraiment très agréable. Et on se rend compte que pour qu'un partenariat fonctionne, si on arrive à réunir ça, la compétence, la collaboration et la bonne entente entre les différents acteurs, en général, ça marche très bien.
Ah, super. Sur ce, merci beaucoup, Pascal.
Merci.
Merci encore d'être là et d'avoir parlé avec nous. Et j'espère à la prochaine.
Volontiers. Très volontiers.
So that was Pascal Moisy, Head of Communications and CSR Manager at ArcelorMittal Luxembourg. Hope you enjoyed our episode and make sure to tune in a couple of weeks. See you then.